Radio Cité Genève. Rendez-vous.
Genève, capitale du monde.
Radio Cité Genève, carrefour de toutes les cultures.
Mix Cité, le rendez-vous des minorités linguistiques.
Toutes les cultures, toutes les Genèves.
Un rendez-vous unique.
À suivre chaque semaine en exclusivité sur Radio Cité Genève
et sur www.radiocité.ch.
Ryan Benamor.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mixité, l'émission des minorités culturelles et linguistiques sur Radio Cité Genève. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Djelal Bayard, qui a une histoire à partager avec nous, car son histoire est à la fois mêlée à celle de son pays et à des événements historiques. Bonjour Djelal.
Oui, bonjour Ryan.
Alors, vous êtes né à Istanbul.
Oui, tout à fait, en 1958.
Mais vous n'êtes pas resté longtemps là-bas, racontez-nous.
Non, c'est vrai. Alors, je suis né en 58, en février pour être précis, et je suis parti, nous sommes partis la même année après l'été au Mexique, à Mexico City.
Pourquoi ?
Mon père avait été nommé ambassadeur de Turquie, et voilà, on ne m'a pas demandé mon opinion, donc je l'ai suivi.
Donc, en tant que fils d'ambassadeur, vous étiez forcément lié à ce qui se passait au niveau politique dans le pays. En 1960, tout bascule pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, alors en 1960, grosse catastrophe pour la famille. Au mois de mai 1960, un coup d'État renverse le gouvernement. Et il se fait qu'à l'époque, mon grand-père était le président de la République. Donc voilà, coup d'État, emprisonnement. Évidemment, gros problème, il faut libérer l'ambassade très rapidement.
Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement pour votre famille ? Comment vous êtes retrouvé ? Dans quelle situation vous êtes retrouvé ?
Eh bien, écoutez, mon père voulait évidemment retourner en Turquie pour voir ce qui se passait avec la famille. Tout avait été bloqué, défense de voyager, pas d'accès à de l'argent. Et sa mère lui a dit de rester en fait à l'étranger, qu'il aurait pu être plus utile à l'étranger. Donc voilà, il fallait chercher une deuxième maison, une deuxième patrie.
Vous étiez relativement jeune à l'époque. Vous avez senti ce déclassement, ce changement de niveau de vie, ces changements d'habitude ? Est-ce que vous avez des images qui vous reviennent ?
Oui, alors évidemment, j'ai des images du Mexique très floues. Je me rappelle juste que ma mère donnait des instructions au personnel d'ambassade de bien fermer les fenêtres, les portes le soir, parce qu'il y avait des gangs armés qui écumaient un peu les quartiers chics de Chapultepec à Mexico City. Mais personnellement, j'étais assez préservé. Mes parents ont toujours fait attention de ne pas reporter le chagrin, le grand chagrin qu'ils avaient sur moi. Mais évidemment que sans argent, en se baladant entre Washington, Paris pour arriver à Zurich. Oui, je l'ai senti, mais plus tard, plutôt à l'école.
Djelal, vous partez pour Paris, vous restez un certain temps à Zurich. Pourquoi avoir choisi la Suisse ?
Alors, c'était les attaches familiales. Mon grand-père, dès le début du XXe siècle, avait déjà visité la Suisse à plusieurs reprises. Il avait pris part au traité de Lausanne. Il était deuxième personne responsable de la délégation économique à Lausanne.
Et le traité de Lausanne pour les auditeurs.
Alors le traité de Lausanne, très important pour les Turcs, parce que c'est ceux qui finalement paraffent l'indépendance de la Turquie en 1923. Et donc mon grand-père décide d'envoyer son fils, donc mon père, peaufiner ses études à l'université de Neuchâtel pour passer son doctorat en économie et en sciences politiques.
Et là, il fait des rencontres assez surprenantes. Il rencontre qui, votre père ?
Alors, il a la chance inouïe d'avoir comme professeur Max Petitpierre, que nos amis suisses connaissent bien, grand radical, président de la Confédération. Il aidera d'ailleurs aussi à peaufiner un peu les lois turques qui changeront un peu. Vous savez que nous avons hérité du code des obligations turc en Turquie, le code commercial aussi. Et puis il rencontre aussi Dudweiler, donc le fondateur de la Migros, pendant ses années d'études. Et ça va évidemment jouer, ce sera un point clé aussi dans sa carrière professionnelle plus tard.
Racontez-nous, qu'est-ce que la rencontre avec Dudweiler a fait dans la carrière professionnelle à votre père ?
Alors, Dudweiler était plus âgé que mon père, mais il avait énormément de sympathie vis-à-vis de mon père. Et mon père trouvait le concept de la Migros à l'époque, donc les camions qui partaient sur les routes de montagne, desservir les petits villages. C'est une idée qui a fait son chemin et mon père a proposé à Dudweiler de faire la même chose en Turquie. Ce qui fait qu'en 1954, mon père a créé la Migros en Turquie. Et si vous allez installé aujourd'hui. Migros Turc est extrêmement présent sur le marché turc. Nous avons des 4M, voire des 5M, avec les mêmes logos, etc. Donc voilà, en 1954, avec Dudweiler, ils fondent la Migros Turc.
Djalel, en tant que fils d'ambassadeur, vous maîtrisez plusieurs langues, notamment le grec. Comment ça se fait ?
Alors oui, je parle le grec. Ça fait très longtemps que je n'ai pas l'occasion de m'exercer à cette très belle langue. Écoutez, c'est simple. À Istanbul, il y a des Grecs d'Istanbul, de Constantinople. Et nous avions deux personnes qui aidaient aux tâches ménagères dans notre maison à Istanbul. Évidemment, à force de les entendre parler, j'ai intuitivement appris le grec, que j'ai peaufiné par la suite dans les années, fin des années 70, quand j'ai rencontré une très belle fille grecque à Genève. Et j'ai pris voilà, quelques mois de cours, etc.
Racontez-nous justement votre venue à Genève. Qu'est-ce qui vous a attiré ou bien quel événement a contribué à vous pousser ici ?
Alors, comme j'ai dit, le coup d'État de 1960 a fait qu'il fallait chercher un nouveau lieu de résidence. Mon père, avec ses attaches en Suisse, avec Dudweiler, il était aussi très présent dans le secteur pétrochimique parce qu'il représentait Siba à l'époque en Turquie. Donc, il avait ses amis ici qui l'ont aidé. Il a trouvé un job, d'abord à Zurich. Ensuite, à partir de 67, à Nyon, à la Zima, qui a changé de nom maintenant. Et donc, nous sommes venus de Zurich à Prangin, et de Prangin, plus tard, à Genève, où je suis finalement resté.
Djalel, si vous le voulez bien, on va écouter un morceau musical. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ?
Alors, j'ai plusieurs choix. Je vais peut-être vous faire écouter un morceau de musique ottomane qui a comme sujet Selim III.
On se retrouve tout de suite dans Mixité sur Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Mix Cité.
Toutes les minorités linguistiques.
Vous êtes toujours dans Mix Cité sur Radio Cité Genève et on se trouve en compagnie de Djalel Bayar, qui vient de la Turquie et qui a une histoire très très dense. Djalel, vous êtes ici depuis 1973. Est-ce que vous vous sentez encore turc ?
Alors, oui, bien sûr, quelque part, oui. C'est-à-dire, j'ai parfois des gens qui me demandent, mais est-ce que vous êtes suisse ou turc ? Moi, je dis toujours, c'est toujours difficile de faire un partage entre une mère et un père. Donc, ma mère est turque et mon père est quelque part suisse. Donc, je me sens tout à fait intégré suisse, mais j'ai cette dualité. Enfin, c'est plus une complémentarité d'ailleurs qu'une dualité.
Vous êtes encore très lié à la Turquie. Ici, vous avez des activités en lien avec la Turquie ?
Alors, j'ai des activités professionnelles qui m'amènent à aller souvent en Turquie, à interagir avec la Turquie. Et j'ai aussi des activités associatives où je suis le président de la Fédération des associations turques de Suisse romande depuis 2007.
Pourquoi des associations turques ont été fondées ici en Suisse ?
Écoutez, j'ai remarqué que finalement, les Turcs n'étaient pas représentés. Quand il fallait demander leur opinion, on ne savait pas à quelle porte frapper, très souvent. Et j'ai aussi remarqué qu'on frappait très souvent aussi à des mauvaises portes ou inopportunes. Et on a décidé avec des amis de créer cette fédération, justement pour pouvoir s'exprimer, faire part de nos préoccupations et aussi apporter un plus à la vie sociétale, aux problèmes, à l'enrichissement sur la Suisse romande.
Ici à Genève, quelles sont les places où vous vous réunissez ?
Alors, notre centre est en fait à Lausanne, à Renan, et nous nous réunissons essentiellement à Lausanne, mais nous avons des sessions de travail sur notre section genevoise aussi.
Vous organisez des fêtes ici à Genève ?
Alors, nous organisons des fêtes, mais ce n'est pas vraiment notre but, parce que c'est plutôt le rôle des associations qui font partie de notre fédération. En revanche, nous faisons des conférences très souvent, des concerts aussi, des événements culturels, aussi un peu d'intervention auprès de nos élus politiques ou de nos futurs élus politiques. Et en ce moment, l'actualité est chaud bouillant concernant justement les élections au Conseil d'État. Donc oui, nous essayons d'être un peu le porte-parole des Suisses d'origine turque en Suisse romande.
Djelal, vous êtes ici à Genève depuis un moment déjà. Et qu'est-ce que vous appréciez bien à Genève ?
Écoutez, quand je pars de Genève, si vous me demandez ce que je préfère à Genève, c'est le moment où je pars ou le moment où j'arrive. C'est-à-dire que quand je pars, Genève me manque. Et quand je reste trop longtemps à Genève, j'ai besoin de partir. J'ai un côté nomade. Mais il y a des qualités, évidemment, ici en Suisse, que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Ça va de la ponctualité à la propreté, le respect des autres, de la nature. C'est des choses que je ressens très fort, par exemple, quand je vais en Turquie. Quand je vois des gens jeter du papier par terre en Turquie, ça me choque. Donc voilà. Et la Suisse est un pays riche en... c'est un pays qui a une profondeur. Elle a l'air froide comme ça, un peu distante, parfois un peu hautaine, je veux dire, à cause des résultats économiques. On a été préservé de beaucoup de catastrophes, de guerres, etc. Mais c'est un pays qui vaut la peine d'être approfondi. Il faut un regard pas superficiel sur la Suisse.
Selon vous, étant donné que vous faites souvent l'aller-retour entre Genève et Istanbul, comment a évolué Istanbul de votre point de vue ?
Alors, Istanbul a beaucoup changé ces dernières années, mais elle a su préserver, en tout cas pour le moment, son âme. C'est-à-dire que c'est une ville plurimillénaire, pluriculturelle, la seule ville au monde à être à cheval entre deux continents. C'est un pont entre l'Europe et l'Est, entre le Nord et le Sud aussi, de par la position géopolitique de la Turquie. Et c'est pour moi une mosaïque. C'est-à-dire que quand je vais à Istanbul, j'entends parler le grec, l'arménien, l'espagnol, l'ancien espagnol. Et tout ça, évidemment, c'est pour moi très, très important. Ça fait partie du côté multiculturel d'une ville.
Djelal, on écoute un autre morceau de musique ?
Absolument, avec plaisir. Alors, je vous propose... ça fait partie d'une série qui s'appelle « Les clairs de lune sur le Bosphore ».
D'accord. Alors, nous écoutons « Clairs de lune sur le Bosphore ». Thank you. C'était Claire de Lune sur le Bosphore dans Mixité sur Radio Cité Genève. On est en compagnie de Djellal Bayard. Djellal, avant de terminer cette émission, pouvez-vous nous donner un peu des nouvelles de la Turquie ?
Alors pour ça, il faudrait une deuxième émission à laquelle je ne m'inviterai pas. Oui, beaucoup de d'actualités en Turquie en ce moment. En 2014, ça va être une année clé pour la Turquie. Nous avons une élection présidentielle, nous avons des élections municipales et nous avons un vote pour la nouvelle constitution. Et évidemment, ça, c'est un tournant pour la Turquie, surtout au regard des événements qui se sont passés pratiquement dans toutes les villes de Turquie suite à la controverse ou suite au problème qu'il y a eu pour le parc de Gezi, qui était un problème urbanistique au départ et qui s'est généralisé en une contestation d'une partie de la population, surtout des jeunes.
Alors en ce moment, c'est un affrontement interne à la Turquie entre les pro-Erdogan et les anti-Erdogan. Est-ce que c'est aussi simple que ça ?
Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a évidemment la vieille garde kémaliste ou les laïcs qui veulent préserver cette république séculaire, moderne, où l'intervention du religieux est amenée à son strict minimum, ou ce qui est nécessaire. Mais il y a aussi une bataille au sein du parti au pouvoir, ça je l'ai vu en Turquie cet été, où il y a maintenant des dissonances, où notre Premier ministre est un peu critiqué dans ses rangs, et je pense que l'élection présidentielle de 2014, à laquelle il est candidat, donc Recep Tayyip Erdogan est candidat, risque de nous faire voir un autre volet de ce que pourrait être la politique en Turquie.
En tous les cas, vous vous frottez les mains de ne pas être entré dans l'Union européenne.
Écoutez, c'est vrai et c'est ironique parce que c'est mon grand-père, quand il était président en 1959, qui avait initié les accords d'Ankara pour l'association à l'Union économique, sous la pression, je rappelle, de Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer, deux pays qui aujourd'hui sont plutôt contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est dommage, mais je crois qu'il ne faut pas arrêter la perspective de l'Union européenne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Turcs, s'il y avait un référendum en Turquie aujourd'hui, je crois que le volet européen, de l'Union européenne en tout cas, pas le volet européen, mais de l'Union européenne, est clos, malheureusement.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Djellal, on a eu un grand plaisir à discuter avec vous dans Mixité sur Radio Cité Genève. On vous souhaite tout bon pour la suite et à bientôt.
Merci beaucoup, Ryan. À bientôt.
Radio Cité Genève.
Mix Cité.
Toutes les minorités linguistiques.
Ryan Benamor.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mixité sur Radio Cité Genève. Mixité qui est l'émission des minorités culturelles et linguistiques. Aujourd'hui, on se rend en Allemagne, mais aussi en Autriche et peut-être aussi à Bruxelles avec Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors Thomas, vous venez d'une région, d'une ville proche de Düsseldorf.
Tout à fait. Wuppertal, et qui a environ 15 km de Düsseldorf. Qui, en fait, cette zone Düsseldorf-Wuppertal, il y a plusieurs grandes villes, Düsseldorf, Cologne, Wuppertal, qui sont très, très près l'une de l'autre. Et voilà, c'est ça la région. Tout en fait autour du Rhin. Voilà.
Alors, vous grandissez dans cette région, vous faites vos études jusqu'au bac, et ensuite, vous avez une envie d'apprendre le français, c'est ça ?
Exactement, oui.
Et comment c'est venu ?
Alors la vraie histoire, c'est que quand j'avais 16 ans, j'étais à Malte pour apprendre l'anglais. Parce qu'en fait, en Allemagne, ça se fait souvent qu'on passe 3 semaines, on fait pendant les vacances d'été, des vacances pour apprendre une langue. Et j'étais dans une famille à Malte où il y avait 3 Français. On s'est vraiment éclaté. C'est eux qui m'ont un petit peu fait connaître quelques amies françaises. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne le français.
Il n'y avait pas un amour pour la langue, oui, ou bien la culture française,
oui,
d'abord.
Mais c'est tout venu depuis ce moment-là. Oui.
Et donc là, vous partez à Bruxelles ou vous partez en Belgique? Non, vous partez à Vesoul d'abord.
Voilà, d'abord, j'étais en France pour... c'est le projet Katimavik. C'était une année sociale. Et c'était en fait, on était 14 jeunes européens de partout, de toute l'Europe. Et on a travaillé avec un groupe d'insertion, on a fait les travaux artisanaux et sociaux pour intégrer quelques gens, en fait, disons, dans la société. Et c'est au cours de ces 9 mois, que je rencontrais une amie. Et ensuite, je continuais pendant 3 mois à travailler avec un peintre qui a restauré un château, le château d'Amandon. Et pendant cette année, j'ai appris finalement le français.
Racontez-nous un peu ces expériences que vous avez faites avec les jeunes là-bas. C'était pas facile, je crois.
Non. Il y avait vraiment des moments très durs. Il y en avait... C'était un cas que je me rappelle bien, que c'était, ses parents s'étaient divorcés, sa mère s'est remariée et lui, par exemple, il avait un très mauvais rapport avec son beau-père. Et peut-être aussi plus pour attirer l'attention de nous, en fait, que de toutes les jeunes quand il est là, qu'il avait une lame de rasoir, il se coupait le bras, comme pour démontrer, voilà, j'ai plus envie de vivre. Et donc, il y avait des moments durs. Mais c'était très très fort et en même temps je crois que très bien pour moi, une, dans ce sens-là une bonne expérience, oui.
Comment vous avez réussi à positiver justement l'apprentissage du français dans un contexte aussi difficile ?
Ah, c'est une bonne question. C'est... Moi je crois que à la base je suis plutôt quelqu'un de positif, je dirais. Et on était quand même 14 jeunes, on avait tous un peu la même idée. Et notre but final, c'était, on avait un projet, c'était d'aller aider les réfugiés en ex-Yougoslavie, avec les enfants. Donc, on avait tous un peu la même idée et c'était sympa parce qu'il y avait de l'Angleterre, de Danemark, de la France, et d'Allemagne, de Wales. Il y avait vraiment d'Espagne, il y avait un chouette mix. Et je crois que c'est un petit peu nous entre nous qui se sont entretenus et ça passait très bien.
D'où vient cette volonté d'aider justement les autres ?
Oui, ça, je sais pas, c'est peut-être c'est mon éducation.
C'est la famille, oui, vos parents avaient déjà ce genre d'activité ?
Alors, mon grand-père, donc le père de ma mère, qui justement lui est de Salzbourg, il était médecin. Et donc, c'est vrai, il y a ce côté, certes, peut-être ça vient de là, de vraiment ce côté vouloir aider les gens, d'être là pour les autres. Et de toute façon, lui, c'était quelqu'un de très important pour moi, qu'encore aujourd'hui, quand je pense à lui, je suis très ému. Et peut-être ça vient de là, tout à fait, oui.
Thomas, vous êtes quelqu'un qui agissait avec le cœur, vous vous lancez dans des activités pour aider les autres, dans le social, mais quand on touche aux villes, c'est aussi des réactions du cœur. Vous êtes venu à Genève et là, vous avez eu un coup de foudre.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous un peu cette expérience. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené ici ?
Alors, en fait, je vais un peu plus loin, un tout petit peu. Je viens d'une famille, en fait, de côté mon père. On a une entreprise familiale en Allemagne dans la peinture, rénovation, restauration. Et j'ai fait, après mon apprentissage, j'ai fait une école à Bruxelles, dont vous avez parlé avant Bruxelles, c'est l'école Van der Kellen, où on apprend le faux bois, le faux marbre. Et c'est Madame Van der Kellen, c'était en fait une école pendant 6 mois, qui me disait, vous avez du talent, il y a une école à Genève, c'est l'école des corps de théâtre à Genève, donc aux Eaux Vives, à l'époque. Allez-y là-bas, c'est pour apprendre le trempe-l'œil, le décor de théâtre. Et je suis parti début de septembre en 97. Ouais, tout à fait. C'est une belle journée, il faisait beau. Et en voiture, j'arrive à la route du lac. Et je dirais plus ou moins hauteur, jardin botanique. Mais il y avait ce sentiment, j'aime bien ici, je veux rester ici.
Restons peut-être sur l'histoire de ce coup de foudre. Mais avant, on va écouter un morceau musical que vous allez nous proposer. C'est quoi ?
Alors, en étant allemand, je me suis dit, on commence avec une chanson allemande. C'est du groupe Die Toten Hosen, c'est le groupe mythique de Düsseldorf. Et ça s'appelle Tag wie diesen.
Traduction ? Des jours comme ça ?
Ouais, plutôt à des journées comme ça, voilà.
On se retrouve tout de suite dans Mixité sur Radio Cité Genève.
Ich warte seit Wochen auf diesen Tag. Und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht.
zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie diesen wünscht man sich schon Endlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. Wünsch ich mir Unendlichkeit. Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom, drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter. An Tagen wie diesen wünscht man sich schon Endlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verändert.
Radio Cité Genève.
Mix Cité.
Toutes les minorités linguistiques.
On se retrouve dans Mix Cité sur Radio Cité Genève. On est toujours en présence de Thomas qui vient de l'Allemagne et qui a aussi des origines autrichiennes. On était resté sur le coup de foudre avec Genève. Mais avant, Thomas, ça vous rappelle quoi cette chanson Tagen wie diesen?
Alors, c'est... Bah, quand je vous dis, déjà, die Toten Hosen, c'est vraiment le groupe mythique de Düsseldorf, d'où je viens. Et ça me... La chanson est vraiment plein d'enthousiasme. C'est ça, ça me rappelle de ma jeunesse et mon meilleur ami, et, ou mes meilleurs amis. Et pour moi, cette chanson vraiment représente une joie de vivre. Bah, il faudrait que je vous traduise toute la chanson, mais quand on voit aussi les vidéos, c'est vraiment ça. C'est vraiment une joie plein de force. C'est ce que ça représente pour moi.
Avant d'écouter cette musique, on s'était arrêté sur votre coup de foudre avec Genève. Mm-hmm. Ça a été facile de vous installer ici ?
Bah oui et non. Alors, je dois dire qu'en comparé à Bruxelles, c'était quand même un peu plus difficile parce que j'ai eu de la chance qu'à l'époque, je partageais un appartement avec Valérie qui a fait l'école de Van der Ken avec moi et qui habitait à Genève. Donc on a partagé cet appartement, mais de faire connaissance avec les gens à Genève, c'était pas si, en tout cas première année, pas si simple. Je m'attendais plus de facilité parce qu'on était quand même les jeunes, on est tous à l'école et je me suis dit bon, de là ça part facilement, mais c'est un peu plus difficile. Et par contre, deuxième année, là c'est vraiment parti, on est devenu, peut-être il fallait une année pour devenir un groupe, pour avoir confiance l'un l'autre, et c'était à partir de là que je connus beaucoup d'amis et qui finalement qui sont toujours des amis en fait.
C'est plus difficile ici de faire des contacts qu'en Allemagne?
Je crois que oui.
C'est dû à quoi selon vous?
Oh, ça, maintenant, il faut pas. Alors, je dois dire peut-être là pour qu'on ne prenne pas mal. Je viens d'une région, donc Düsseldorf, Cologne, c'est toute une région, le Niederrhein, où les gens, ils sont quand même très frivoles. C'est le carnaval. Et très facile en contact. Ce qui en fait, ils vont vers vous quand vous y arrivez. Donc, ce qui est pas tout à fait le cas ici à Genève, je trouve, en tout cas en premier abord. Par contre, c'est ça ce qui est important, les amis que je fais, que je compte dans les années 97, 90, jusque 99, après j'étais parti à Zurich pour un certain moment, quand je suis revenu en 2005, mais les amis étaient encore là. Et ça, je dois dire, c'est quand même quelque chose de formidable aussi à Genève, les gens qu'on rencontre une fois amis, mais on ne les oublie pas. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais, peut-être c'est partout pareil, mais ça, c'était quelque chose qui, pour moi, était très fort aussi.
Thomas, vous avez mis combien de temps à vous lancer dans vos activités de professionnel de peinture ici à Genève?
Alors, ça, c'est, je dois dire, quand même grâce à ma femme, parce qu'elle, elle est artiste peintre, elle a fait aussi l'école Van der Ken à Bruxelles, mais c'est pas là où on s'est connus. Et elle était après 7 ans indépendante à Milan. Et quand on se rencontrait, j'habitais encore à Zurich. Et c'était un peu, elle est italienne de Turin. On a discuté qu'est-ce qu'on fait. On rentre en Allemagne, tu reprends l'entreprise. Est-ce qu'on va en Italie? Et le compromis, c'était Genève. Pas trop loin de l'Italie. Et c'était en 2005 qu'on a dit, voilà, on retourne à Genève. Ou moi, je retourne à Genève. Elle, pour elle, c'était la première fois. Et je me suis mis à mon compte en septembre 2005.
Thomas, on écoute peut-être le deuxième morceau musical que vous nous avez choisi.
Oui, alors c'est « We are young ».
En français?
Bah, on est jeunes.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight. We are young, so let's set the world on fire. bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Vous êtes toujours dans Mixité sur Radio Cité Genève. On est toujours en compagnie de Thomas. Genève, donc un compromis italo-germano-artistique.
Tout à fait, oui, c'est tout à fait ça, oui. Ouais.
Vous êtes encore très lié à l'Allemagne, Thomas?
Oui, alors ce que j'ai, ça fait maintenant 2-3 ans que je retourne quand même fréquemment, et effectivement, il y avait un moment que je pensais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ici? On retourne, je reprends l'entreprise de mon papa, mais ce qui dure aussi parce qu'on a deux enfants, deux filles de 4 et 8 ans aujourd'hui, Anaïs a son anniversaire, elle a 8 ans. Voilà, herzlichen Glückwunsch. Et parce que de ne pas avoir la famille, c'est pas si simple. Mais finalement, on a quand même décidé de rester ici. Et je dois dire, je suis très content parce que ça marche bien. Là, on commence à être bien intégré. Et j'aime beaucoup Genève, quand même.
Et vous avez des fois le blues de l'Allemagne ou bien le blues de l'Autriche?
Oui, oui, oui. Alors le blues, voilà, justement, quand on était en Autriche, là, il y a un mois, oui, il y a un peu le blues. Il y a des moments où je me suis dit, mais c'est tellement beau, les gens, ils sont tellement sympas. Et aussi chez moi, logiquement, là, je crois que... On vient tous de quelque part. On a quelque part nos racines, donc je crois pas, on peut pas les nier. Donc il y a des moments où ça me manque beaucoup, mais je crois aujourd'hui, je ne crois pas que je pourrais retourner parce que ma vie est ici maintenant, professionnellement et aussi la famille et les amis.
Même pas en Autriche, pour laquelle vous avez vraiment un coup de cœur.
Ouais, c'est difficile. Non, je crois pas que je ferais, c'est pas, je crois pas. Aussi, avec ma femme, d'aller en Autriche, non, je crois pas.
Donc, vos filles parlent à la fois italien, français et allemand.
Tout
et anglais, évidemment.
Bon, ils vont l'apprendre, l'anglais, oui, oui. Mais okay. L'allemand, c'est, elles comprennent tous, mais c'est un petit peu la langue qui est le moins parlée, malheureusement, chez nous.
Thomas, on a eu un grand plaisir à partager ce moment avec vous. On vous souhaite tout bon pour la suite et à bientôt dans Mixcité sur Radio Cité Genève.
Merci beaucoup. Au revoir.
Radio Cité Genève.
Mixcité.
Toutes les minorités linguistiques.
Ryan Benamor.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Mixcité. On a le plaisir aujourd'hui d'être avec Laurence, qui a des origines hongroises, canadiennes et même anglaises, mais qui est née à Genève. Bonjour Laurence.
Bonjour Ryan.
Alors Laurence, qu'on porte tellement d'identité, on finit par s'y retrouver?
Oui. Disons que comme elles ne sont pas extrêmement fortes, j'ai pas grandi dans une culture... plus qu'une autre, c'était vraiment un mélange dès le départ entre deux parents étrangers qui sont arrivés à Genève et qui n'ont pas fondamentalement forcé l'une ou l'autre, mais ça fait partie de mes racines, de mes origines. Donc voilà, j'ai grandi avec de façon, je dirais, très naturelle, sans poser la question de savoir s'il y en avait une qui était plus forte que l'autre.
Alors quand on grandit entre un Hongrois et une Canadienne, à quoi ressemble la vie?
Le Hongrois, c'est assez rock'n'roll. Heureusement que c'est maman qui est canadienne anglaise, un petit peu de douceur. Disons que mon père est réfugié, ce qui n'a pas apporté de conséquences, je pense, dans notre éducation. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme il me l'a avoué une fois que j'étais adulte, il a eu le complexe du réfugié et ne nous a pas appris le Hongrois ni à ma sœur ni à moi. Donc effectivement, l'anglais, je pense que dans la vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, a été un atout majeur, mais il m'a toujours manqué... J'ai toujours eu le regret de ne pas pouvoir communiquer avec ma grand-mère directement. Et autant je comprends le hongrois, j'écoute la musique, je reconnais la langue parmi les autres, mais je ne la parle pas. Donc c'est une frustration, mais en même temps, j'aurais eu la possibilité à un moment donné de prendre des cours en étant la deuxième génération sur Genève. Et je dois avouer que je n'ai pas eu le courage de commencer à passer 20 ans.
Laurence, à quoi ressemblaient vos vacances d'été quand vous étiez petite?
Alors, il y avait un mois en Angleterre et un mois en Espagne. Et je dois vous avouer que je préférais lorsqu'on passait le mois en Angleterre d'abord, comme ça je pouvais rentrer à l'école bronzée. Si on passait le mois en Espagne d'abord, effectivement, j'avais un peu toutes les saisons en Angleterre et je rentrais pas forcément bronzée. Donc voilà, un mois avec mes grands-parents en Angleterre, j'ai vu ma grand-mère hongroise quand même beaucoup moins souvent.
Et pourquoi vous n'alliez pas plus souvent en Hongrie?
Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à mon père, je pense. Vu ma génération, maman ne travaillait pas, donc elle venait un mois avec nous en Angleterre pour voir ses parents. Et papa nous rejoignait en Espagne, parce que c'est simplement un endroit dans le sud de l'Espagne que mes parents adoraient. Ils connaissaient des amis qui avaient d'autres enfants, donc je pense que c'est plus pour des raisons sociales pour eux que nous allions là-bas, plutôt que d'aller voir ma grand-mère en Hongrie.
Donc au final, vous vous sentez genevoise, canadienne ou hongroise, pour répondre à la question?
A priori, comme ça, à la fois, genevoise, avec des racines étrangères. Mais vraiment, Genève, c'est la maison. Je me sens plus genevoise que suisse, mais Genève est la maison.
Vous êtes déjà sentie étrangère quelque part? Vous me parliez d'être une citoyenne du monde.
En ce sens, non. Je me suis sentie, entre guillemets, touriste dans une ville, mais étrangère, non. En ce sens que j'ai toujours eu de la facilité à rencontrer des gens, à parler à des gens d'autres cultures, que ce soit à Genève ou ailleurs, lors de mes voyages ou lors de mes déplacements. J'ai assez de facilité avec le contact humain. Donc, étrangère, non. Et effectivement, je n'ai pas... on est à la radio, donc les gens voient pas à quoi je ressemble, mais je me fonds très très bien parmi les Occidentaux et les Européens à Genève. Donc effectivement, je n'ai pas subi de remarques par rapport au fait que mes parents étaient étrangers. Donc non, je pense pas que je me sois sentie étrangère.
Vous avez joué avec des petits Hongrois et des petits Canadiens quand vous étiez petite, ou bien pas du tout?
Pas plus que d'autres, mais par contre, j'ai grandi à La Gradelle, qui était un quartier où il y avait beaucoup beaucoup d'étrangers. Donc, si vous voulez, je me souviens des maîtresses qui, chaque année, nous demandaient dans la classe qui est suisse parmi vous. Et il y avait généralement très, 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 très peu de mains qui se levaient. Nous étions tous nés à Genève, mais tous de parents étrangers. Donc, dès le plus jeune âge, grandis dans une atmosphère avec de la mixité, des gens de différents horizons, de différentes cultures, de différentes couleurs. C'est comme ça que j'ai grandi. Et à la maison, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de sentiment de... Comment on dit Je ne me suis jamais sentie étrangère, mais je cherche un autre mot, ça m'échappe, désolée.
Laurence, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes partie au Canada, en Inde. Vous pouvez un peu nous raconter qu'est-ce qui vous a amené dans ces pays?
Alors l'Inde, c'était un rêve de toujours. J'y suis partie pour la première fois en 2006 et j'y suis retournée quasiment chaque année depuis. La première fois que j'ai posé le pied à Bombay, je me suis sentie comme à la maison. J'ai voyagé dans d'autres pays en Asie, j'ai fait plusieurs villes en Europe, l'Amérique du Sud. Mais je dois dire que l'Inde particulièrement, c'est un endroit où... J'ai envie, j'ai besoin de retourner chaque année. Et le Canada, en fait, c'est par l'Inde. Une rencontre m'a amenée à Montréal. Donc, c'était un joli retour aux sources puisque ma mère est née au Canada. Et effectivement, j'ai eu la chance d'y vivre pendant un an et demi. Là, je suis de retour à Genève, mais peut-être pas pour longtemps.
Racontez-nous un peu comment était votre vie au Canada. Qu'est-ce que vous ressentiez? Est-ce que vous vous sentiez en phase avec la vie là-bas? Est-ce que vous vous sentiez chez vous?
Chez moi, dès le départ, non, mais je sentais un lien fort avec ce lieu de naissance de maman. Alors, le Canada est en Amérique du Nord, donc il y a certains aspects, je pense, qui sont propres à l'Amérique du Nord, mais ne jamais dire que c'est américain pour les Canadiens, parce que ça se passe pas bien. Une fois que je savais où trouver qui, quoi, comment, une fois que j'avais appris comment, effectivement, ils donnent les directions, c'est-à-dire c'est nord, sud, est, ouest, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en Europe. En Europe, on va donner les noms des rues, le croisement, ou tel restaurant. Là-bas, ils disent, voilà, c'est au nord de tel croisement, telle rue. Une fois que j'avais pris mes marques comme ça, là, je me sentais bien, mais je me sentais... C'est la seule autre ville dans laquelle j'ai vécu à part Genève, donc j'ai pas beaucoup de références par rapport à d'autres endroits dans lesquels j'aurais vécu. Les autres villes et les autres lieux que j'ai fréquentés étaient pour des vacances, donc je pense que c'est pas du tout la même approche lorsqu'on est en vacances dans un lieu, que ce soit une ville ou un lieu de villégiature, ou qu'on voyage dans un pays. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de points de repère, mais le fait que ce soit Montréal, qu'il y ait des origines européennes, j'ai pas été complètement dépaysée. Il y a cette culture d'avoir les terrasses en été, les gens se voient et se parlent de manière similaire à Genève et à l'Europe. Donc pas un dépaysement trop grand.
Restez avec nous, vous êtes dans Mixité sur Radio Cité Genève. Laurence nous propose une petite musique hongroise. Thank you. Vous êtes toujours dans Mixité sur Radio Cité Genève et on a le plaisir de discuter avec Laurence qui est à la fois hongroise, canadienne et anglaise et qui vit à Genève depuis sa naissance et qui se retrouve bien dans toutes ses identités. Alors Laurence, vous m'avez parlé d'une histoire de racisme avec votre sœur.
Oui, comme je disais, je n'ai pas un faciès ou une distinction qui pourrait me rendre sujette au racisme. Mais ma sœur, effectivement, avait travaillé dans un grand magasin et elle avait son nom de famille écrit sur son badge. Et elle a vécu une fois une remarque désagréable de quelqu'un lui disant que il fallait qu'elle retourne chez elle. Ma sœur, là, je ne sais pas quelle a été la réaction de ma sœur, mais en tout cas, moi, j'ai jamais subi ce genre d'outrage.
Et votre sœur parle peut-être plus hongrois que vous ?
Pas du tout. Non, là, mon père n'a pas fait de distinguo, ni l'une ni l'autre, malheureusement. Mais voilà.
Donc elle n'avait même pas un accent ?
Non. Non, rien du tout. Elle est née et a grandi à Genève. Comme moi, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc à nouveau, c'était vraiment le fait qu'elle ait ce nom sur le badge et quelqu'un de... Pas très bien intentionnée, lui a fait une remarque désobligeante dans ce magasin alors qu'elle travaillait. Donc voilà.
Vous m'avez raconté un épisode un peu étrange quand vous êtes allé à Budapest. Quel était votre sentiment quand vous êtes arrivé là-bas ?
Eh bien, comme je le disais, mon nom de famille est hongrois. Donc j'avais réservé un hôtel. Nous avons passé une semaine à Budapest avec des amis. Et lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, c'est moi qui l'avais réservé. Donc c'est effectivement mon nom de famille hongrois qui figurait sur la réservation. Donc quand nous sommes arrivés, je suis allée à la réception et la personne s'est adressée directement à moi en hongrois. Et là, j'ai ressenti une énorme frustration et j'en voulais un petit peu à mon père parce qu'effectivement là, j'étais désarmée parce que je ne pouvais pas répondre en hongrois, quand bien même j'ai un nom de famille hongrois et que j'étais à Budapest. Donc voilà.
Héritage paternel, zéro. Héritage maternel.
Alors effectivement, l'anglais comme langue maternelle et ensuite des amis anglophones avec lesquels j'ai parlé très régulièrement, un travail, j'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans, donc là aussi je travaillais en français, en anglais, j'ai toujours continué avec les deux langues, donc je suis vraiment bilingue. Alors plus un héritage linguistique maternel que paternel.
Mais pas seulement, il y a aussi les mains dans cette histoire.
Les mains, ah voilà, l'héritage de maman, trois générations de ma grand-mère, en passant par ma mère, mes tantes, ma sœur et moi, effectivement des femmes qui savent entre guillemets tout faire avec leurs 10 doigts, que ce soit de la couture, de la peinture, du bricolage, ma sœur est graphiste, je suis créatrice de bijoux, ma mère a fait découvrir l'extraordinaire lorsque nous étions petites, des rideaux assortis, enfin bref, toutes capables de faire plein de choses avec nos mains. Du côté de maman.
Est-ce que c'est utile d'être hongroise ou canadienne pour créer des bijoux ?
Je ne saurais vous dire si ça a une incidence. En tout cas, c'est en moi depuis toujours. Je crée des bijoux depuis l'âge de 13 ans, je crois. Et j'ai toujours adoré ça. Maman nous a toujours encouragés petite. Elle a fait des ateliers peinture, pâte à modeler, bricolage. Et c'était pas que pour ma sœur et moi. C'était pour moi et mes amis. Ma sœur et mes amis, elle mettait une grande nappe en plastique. Et puis, on pouvait laisser libre cours à notre créativité. Donc, il y a une part maternelle maintenant. Est-ce que c'est parce qu'elle est anglaise et canadienne ? Je ne sais pas si ça vient typiquement d'une nationalité ou si c'est en nous, dans la famille.
Parlez-nous un peu de cette activité de créatrice de bijoux. Comment se passe une journée d'une créatrice de bijoux ?
Alors, tout dépend de l'inspiration, mais généralement, j'ai plus d'idées et pas assez de temps et que demain. Donc voilà, l'inspiration et les idées ne sont pas ce qui me manque. C'est généralement, j'ai plusieurs projets en cours, donc je me lève le matin, c'est café la première chose. Et ensuite, voilà, je suis à mon atelier, je suis à ma table, et soit je commence une pièce, je continue une pièce, ou alors tout d'un coup, j'aperçois deux couleurs de pierre et ça m'inspire une combinaison, et tout de suite, je visualise un bijou. C'est au fil de mon inspiration. J'ai pas un cadre précis, je me laisse porter par ma créativité. Et voilà, j'ai créé ma marque en 2009. Mais je ne me suis mise en activité que fin 2011, au hasard d'une, euh, d'une, on va dire, une restructuration dans le cadre de mon dernier travail, ce qui m'a vraiment permis et m'a donné l'essor pour me lancer. Et j'ai donc créé ma marque Loulou.
Vous dessinez des bijoux et ensuite vous les proposez à qui ?
Alors, je les propose dans des points de vente à Genève, enfin pour l'instant à Genève et à Zurich. Je suis en vente aussi sur Internet. Et sinon, c'est du bouche à oreille, c'est des amis qui ont reçu un bijou et d'autres amis les voient et on me demande de faire des commandes spéciales ou des bijoux sur mesure en termes de couleur, de forme, d'attention particulière. Donc voilà, je crée pour les magasins et je crée aussi sur commande pour répondre à une demande précise de la part d'un ou d'une cliente.
Laurence, je suppose que Genève is the place to be en matière de création de bijoux.
Disons qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de joailliers, il y a beaucoup de grandes marques. C'est là où je vis actuellement. Quand bien même j'ai commencé mon activité à Montréal, mon premier point de vente, je l'ai ouvert à Genève. Donc, c'est ici que je suis pour l'instant. Maintenant, c'est une activité que je peux réaliser d'où que je sois dans le monde. Et ensuite, je pourrai distribuer partout ailleurs dans le monde. Donc, j'ai la chance d'exercer une activité qui n'a pas de frontières.
Mais pourtant, vous aimez bien Genève. Pourquoi ?
J'aime Genève parce qu'il y a une qualité de vie extraordinaire. C'est au cœur de l'Europe, donc ça permet des voyages faciles à droite et à gauche. Même à l'époque où je travaillais dans des bureaux, je pouvais sortir même tard le soir, aller me baigner dans le lac. La montagne n'est pas loin. Comme je disais, toutes les capitales alentours sont à moins de 2 heures d'avion. Donc ça, c'est une facilité que j'aime. Et le fait d'avoir une qualité de vie agréable, parce que Genève n'est pas une trop grande ville, donc avoir une qualité de vie agréable à Genève m'a toujours plu. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, peut-être que je vais quitter Genève temporairement pour un ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique.
Parce qu'il n'y a pas de restaurant hongrois ici ?
Le meilleur restaurant hongrois, c'est Reste la Maison. Quand on a la chance de connaître une cuisine faite à la maison, c'est rare qu'on apprécie de la manger dans un restaurant.
C'est sur cette touche de Hongrie qu'on va se quitter. En tous les cas, Laurence, on a vraiment apprécié ce moment avec vous et on vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt.
Merci Ryan, merci de m'avoir accueilli. À bientôt.
Radio Cité Genève.
Mix Cité.
Toutes les minorités linguistiques.